27 avril. Bienvenue à tous. Il est 8h.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
Et à 8h, c'est Victor Pourchet qui vous informe. Bonjour Victor.
Bonjour Lénaïque et bonjour à tous. La direction de Sciences Po Paris accepte l'une des revendications des militants pro-palestiniens. Discuter d'un potentiel boycott des établissements israéliens. C'est à ce prix que l'école parisienne a été débloquée hier. Cette hostilité envers Israël, une importation des États-Unis. On vous explique pourquoi en début de journal.
Bercy peut souffler, la note de la dette publique française reste inchangée. Décision hier soir des agences Fitch et Moody's. Des agences qui ont de moins en moins de pouvoir, vous l'entendrez.
Et puis la flamme sur les flots, la torche olympique débute son voyage sur la Méditerranée dans moins de 2 heures. On partira à la rencontre du jeune équipage qui en aura la charge entre Athènes et Marseille.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la balade du samedi. Vanessa en part
sur un bateau traditionnel pour voguer dans le golfe du Morbihan.
Et avec vous, Olivier Pouls, on mange quoi ?
On mange des fraises, deux petites recettes originales.
Invité d'Europe 1 matin week-end, on reste en mer avec Aymeric Gibet, commandant du Belém, qui va transporter la flamme olympique. Ah. Le bateau appareil à 10h, heure française. Ce sera après le journal et votre tendance météo, Mickaël Poteau.
Eh bien, Lénaïque, c'est bien humide sur une bonne partie ouest avec de la pluie presque toute la journée, tant plus clément sur l'est et en Méditerranée avec des températures proches des normales de saison.
Et météo complète juste après le journal.
Europe 1.
Et on débute votre journal, Victor, avec une journée sous haute tension à Sciences Po Paris.
Des slogans anti-israéliens entonnés par des dizaines d'étudiants hier, drapeau palestinien en main, un blocus levé dans la soirée après un accord avec la direction. Il implique notamment de futures discussions sur un éventuel boycott des partenariats avec des écoles israéliennes. Bonjour Antoine Bienvaux.
Bonjour Victor.
Ce mouvement pro-palestinien à Sciences Po Paris, il est directement inspiré de ce qu'il se passe de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis.
Oui, et notamment de la prestigieuse université de Columbia où des militants pro-palestiniens ont installé des tentes et manifestent depuis plusieurs jours. Le mouvement déclenché à Sciences Po hier semble clairement s'en inspirer, comme en témoignent ces chants repris en anglais par des étudiants parisiens. Une importation dangereuse pour Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France, qui est allé confronter ces manifestants pro-palestiniens devant Sciences Po hier.
Quand on voit des gens qui empêchent des milliers d'étudiants d'étudier pour importer la violence antisémite qu'il y a eu lieu à Columbia, bah oui, on peut craindre que des étudiants juifs soient violemment pris à partie, évidemment.
Et ce qui l'inquiète au-delà des slogans, c'est l'accord accepté par la direction de Sciences Po. L'école promet notamment de suspendre les procédures disciplinaires engagées contre les manifestants. Un aveu d'échec pour Yvan Lecoz, délégué étudiant de l'Union nationale interuniversitaire.
Malgré des propos antisémites qui ont été tenus, malgré des propos ouvertement pro-Hamas, il n'y aura aucune poursuite pour ces militants pro-palestiniens. Donc moi j'appelle ça se coucher, d'autant plus qu'ils vont remettre en cause des partenariats avec des universités israéliennes ou avec des organisations pro-israéliennes. Ça, c'est absolument scandaleux. Je dirais même que c'est se complaire avec des personnes pro-Hamas.
En échange de ces concessions, Sciences Po a obtenu la promesse des étudiants de maintenir le calme jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Merci Antoine Bienvaux. Et j'ajoute qu'au micro d'Europe 1, Yonatan Arfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, dénonce le poids, selon lui, de la France insoumise dans le blocus de Sciences Po Paris. On l'apprend à l'instant, une grande attaque de drones ukrainiens a eu lieu sur la Russie ce matin. Le ministère russe de la Défense annonce avoir abattu 68 drones au-dessus de son territoire. Aucun bilan humain n'a pour l'heure été communiqué.
Et c'est un grand ouf de soulagement, Victor, qui a traversé hier le ministre de l'Économie. Les agences Fitch et Moody's n'ont finalement pas dégradé la note de la dette française.
Malgré les dérapages du déficit public annoncés ces dernières semaines, Fitch et Moody's ont choisi le statu quo. La France reste troisième au niveau de ce barème. Pour Sylvain Bersinger, chef économiste au cabinet Asterès, cette annonce montre surtout que le rôle de ces agences de notation est en fait assez limité.
Dans le fond, ces agences de notation ont une importance très limitée, puisqu'en fait, les marchés ne suivent pas forcément leurs décisions. Elles servent à donner le pouls des finances publiques, de la situation des différents États. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les grandes banques, tous les grands fonds d'investissement, les grands gestionnaires d'actifs ont déjà des bataillons d'économistes qui mènent des analyses plus ou moins équivalentes à celles des agences de notation. Et donc, ils n'ont pas besoin des agences de notation pour savoir quoi penser de la dette française. Donc, c'est en ça que les agences de notation, oui, elles donnent une tendance, elles permettent aux politiques de communiquer dessus, mais elles n'ont pas d'impact réel sur les marchés financiers.
Et des propos recueillis par Margot Fodéré pour Europe 1. De son côté, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a affiché, je cite, sa volonté de redoubler de détermination pour rétablir les finances publiques, c'est-à-dire tenir l'objectif de moins de 3% de déficit d'ici à 2027, objectif sur lequel les agences sont-elles plus réservées. Dans l'actualité également, un motard de la gendarmerie mort en intervention hier. Cela s'est passé sur la Nationale 13, près de Bayeux, dans le Calvados. Le militaire tentait d'intercepter un véhicule en infraction. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté ses condoléances aux proches et à la gendarmerie sur le réseau social X.
Et puis les automobilistes franciliens, eux, vont devoir prendre leur mal en patience. La réouverture de l'A13 à la sortie de Paris, l'autoroute, est retardée.
Ce ne sera pas le 1er mai comme initialement prévu, car la fissure sur cet axe très emprunté d'Île-de-France n'est pas encore totalement réparée. Les autorités ne donnent d'ailleurs pas de nouvelles dates de réouverture. Et selon Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club de France, cela pourrait durer encore plusieurs semaines.
On l'avait tous un petit peu pressenti parce que une fissure transversale consécutive à un glissement de terrain, c'est-à-dire que le pilier a bougé. J'en ai discuté avec un peu des spécialistes. On voyait pas comment on pourrait résoudre ça même en 8 jours. Donc pour l'instant, il n'y a pas de communication sur la date de réouverture et je suis pas très optimiste. Donc il faut se préparer à trouver des solutions alternatives, du télétravail, faire des grands détours parce que ça risque de durer. Il y a eu effectivement des demandes de certains hommes politiques de rendre gratuit l'A14 et l'A86, voilà, donc qui permettent un petit peu d'éviter de l'A13 et d'arriver dans le centre de Paris. Oui, ça peut être une solution, mais moi c'est ce que j'ai dit, faut pas hésiter à discuter avec les concessionnaires et trouver une solution commune. Je suis certain qu'ils auront une oreille attentive.
Et Yves Carra, le porte-parole de l'Automobile Club de France. L'une se terminait hier, une autre va bientôt voir le jour. Emmanuel Macron annonce la création d'une nouvelle convention citoyenne avant la fin de l'année. Promesse formulée devant les 184 hommes et femmes de la convention sur la fin de vie. C'était leur dernière réunion hier. Le thème de la prochaine convention citoyenne reste à déterminer. Et pourquoi pas sur un sujet sociétal qui revient dans l'actualité. Pour ou contre la légalisation de la gestation pour autrui en France, vous êtes près de 60% à y être favorable. C'est le résultat du sondage CSA exclusif Europe 1 CNews pour le journal du dimanche, et ce, quelques jours après la polémique suscitée par l'annonce du couturier Jacques Musse. Il a annoncé avoir eu recours à la GPA.
Il est 8h07 sur Europe 1 et c'est bientôt l'heure du grand départ pour la flamme olympique.
Qui a été remise hier au président du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet, et qui est prête ce matin à embarquer à Athènes sur le 3 mât, le Belém. Il mettra les voiles à partir de 10h, direction à Marseille. Et sur ce bateau, un très jeune équipage, Martin Lange.
Oui, ils sont 16 jeunes âgés de 17 à 24 ans venus des quatre coins du pays. Ces éclaireurs, ils ont été sélectionnés par la Caisse d'épargne, le mécène du Belém. Pour la plupart novices de la voile, ils ont passé une journée d'initiation sur le vieux gréement. Une révélation pour Hugo.
En arrivant sur le Belém pour la première fois, j'ai été émerveillé par la beauté du bateau. Ça reste un immense privilège de remonter à bord pour bien évidemment transporter cette flamme, la ramener en France en fait, tout simplement. C'est fou en fait.
Pour manier ce géant des mers, 58 mètres de long, 22 voiles, ils seront aidés par l'équipage, 16 matelots sous le commandement du capitaine Émeric Gibet. Cette joyeuse troupe va passer 12 jours en Méditerranée avant d'arriver à Marseille pour le clou du spectacle. Manon, 24 ans.
De voir tous les bateaux, tous les passionnés de mer qui vont nous accueillir, nous acclamer avec les cornes de brume, avec tous les moyens possibles qui vont nous accompagner dans le port. Je pense que ça va être surtout très très fort. Je reviens quand même au bercail, vu que je suis du Var, j'aurai de la famille et je vais être contente de pouvoir les rendre fiers, quoi.
La flamme débutera ensuite son tour de France, mais elle reprendra la mer le 7 juin, à bord du trimaran d'Armel Lecléache, direction cette fois les Antilles.
Martin Lange, et pour accueillir la flamme olympique à Marseille, il fallait un visage bien connu, des Phocéens.
Oui.
Il a été annoncé hier, ce sera Florent Manaudou, le nageur et évidemment champion olympique.
Et puis j'ajoute que d'ici quelques minutes, nous sommes à bord du Belém en compagnie d'Emeric Gibet. C'est le pacha, c'est le commandant du 3 mâts et il nous raconte tous les derniers préparatifs à 2h désormais du départ de la flamme olympique. Merci Victor. Mickaël Poteau, parapluie nécessaire sur la façade atlantique.
Exactement, puisque la pluie de cette nuit stagne du sud Aquitaine jusqu'en Normandie, en épargnant tout de même la pointe bretonne. Deux autres secteurs pluvieux sont également à signaler aujourd'hui sur les Pyrénées. Tout d'abord, avec une neige continue au-dessus de 2000 mètres toute la journée, et dans les Cévennes, des pluies plus modérées sur les Hauts-de-France, du Massif central aux frontières de l'Est, et un temps plus lumineux à l'Est et en descendance sur la Méditerranée. L'après-midi s'inscrit dans la continuité avec des pluies qui débordent en Normandie sur le nord, toujours sur la Pyrénées et les Cévennes, et 8 départements en vigilance orange pour orage et grêle. Ça concerne la Charente, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Et du vent également, 50 à 100 km par heure sur tout le sud de la vallée du Rhône et jusqu'aux Ardennes. Pour les températures, 3 à 13 degrés ce matin. On commence à 3 à Quimper, jusqu'à 13 pour Bastia et Perpignan. Et cet après-midi, 11 à 23. 11 à Vannes, 13 au Havre et jusqu'à 23 degrés prévus pour Ajaccio.
Et merci Mickaël Poteau, je ne sais pas si c'est un hasard, mais on est plusieurs dans l'équipe à porter un pull marin ce matin. Ça tombe bien, nous accueillons dans Europe 1 matin, week-end, Aymeric Gibet, commandant du Belém, qui va appareiller dans 2 heures à présent depuis Le Pirée vers Marseille. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,99€.
Les fraises rondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,99€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Toi ramène ta fraise, t'es mal embarqué.
En barquette, patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Chez Ixina, à partir de 2990€, vous avez une cuisine sur mesure et électro inclus. Et en plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Ah oui, en plus, elle est garantie 10 ans. En fait, le prix Ixina, c'est vraiment bien plus qu'un prix. Ixina, oui à vos rêves. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur Ixina.fr.
Enfin, au livre de poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Ravel. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Raven, au livre de poche.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative de Noirmoutier, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge.
Dans Challenge, un grand dossier sur le cauchemar des droits de succession, un impôt qui rapporte beaucoup plus qu'ailleurs et que les Français détestent. Dans Challenge, les barèmes et les solutions pour réduire l'impôt et aussi les incroyables batailles autour des testaments. À retrouver cette semaine dans Challenge.
C'est si bon. Rouge des Prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faux filet.
En onglet.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snacké.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui, oui.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Matin week-end, 6h-9h, Lénaïque Monnier.
Il est 8h15 et nous allons parler avec vous, Lénaïque, de la flamme olympique qui poursuit son parcours sur un voilier. Celui de votre invité actu, Aymeric Gibet, commandant du Belém et qui d'ailleurs apparaît dans quelques heures, Lénaïque.
Oui, parce qu'on prend le large ce matin sur Europe 1, enfin pas nous hélas, mais le magnifique Belém qui va rapporter la flamme olympique à la maison, comme on dit. Bonjour Aymeric Gibet.
Bonjour.
Vous êtes au Pirée, à Athènes, vous appareillez d'ici 2 heures à peu près avec une mission et non des moindres, rapporter cette flamme olympique à la maison. Est-ce que la météo est clémente pour prendre ce départ d'abord, des questions de marin?
Alors oui, ça fait quelques moments que je regarde la météo, ouais. J'essaie de me renseigner. Pour l'instant, ce qui est très
ce qui est très bien, c'est que les vents sont favorables hein, et elle nous sert bien. Pour l'instant, il y a rien qui va bloquer la mise en route du navire. Donc côté maritime, il y a aucun problème. Tout a l'air de bien s'annoncer pour l'instant.
Alors quand vous avez appris, Aymeric Gibet, que le premier à relayer la flamme, ce serait pas un athlète, ce serait pas une star, mais que ce serait ce fameux trois mâts, qu'est-ce qui a prédominé chez vous, la joie, l'envie d'être à la hauteur, le choc, la surprise?
Je crois que vous avez un peu tout cité par les éléments psychologiques lesquels je traverse, parce que c'est un petit peu les montagnes russes. Là, à quelques heures, à quelques minutes du départ, donc nous, on a de quoi s'occuper. Donc c'est vrai qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire. Un appareillage d'un navire, il y a toujours mille et une petites choses à faire. On ne peut pas décoller comme ça. Mm-hmm. Mais on se prépare aussi à l'arrivée de la flamme, qui est bientôt imminente. Donc Tony Estanguet qui va monter à bord. Alors nous, c'est pas exactement le relais. On est conscient aussi qu'on est un petit peu le prologue du relais de la flamme. C'est bien dans une lanterne de transport que la flamme va arriver. Mais dans cette lanterne, on aperçoit bien le feu olympique. Donc pour nous, c'est quasi la même émotion que si on avait le flambeau. Donc oui, tout l'équipage, les jeunes éclaireurs que j'ai à bord, on est tous là presque au garde-à-vous, là on attend un petit peu, il y a du monde sur lequel, la cérémonie, on sait que c'est assez organisé, chorégraphié, et dans quelques heures maintenant on va pouvoir dire l'ordre, le dernier ordre qu'on annoncera à la Terre, c'est larguer tout devant, larguer tout derrière, les amarres seront larguées et le BLM partira avec cette hôte de marque qui est cette flamme olympique.
Et alors avec ces jeunes, vous le disiez, commandant JB, sept jeunes éclaireurs, quel est leur rôle à bord?
Leur rôle, c'est quasi tout. On a la coutume de dire que les gens qui sont à notre bord, nous sommes 16 marins professionnels issus de la marine marchande, nous sommes le personnel d'encadrement qui permet à tout le monde de naviguer à bord du BLM. La fondation BLM Caisse d'Épargne, c'est son objectif, c'est d'ouvrir le BLM à tous. Mais là, exceptionnellement, et puis on fait aussi avec des jeunes en insertion, on a sélectionné 16 jeunes jeunes qu'on appelle nos éclaireurs. Ce ne sont pas les relayeurs, ce sont les éclaireurs. C'est vraiment les premiers qui vont amener la flamme pour commencer le relais. Et ils vont avoir comme tâche de faire que le BLM navigue sous voile. Donc on va pas les ménager, ils vont se réveiller la nuit pour tirer sur les voûtes, ils vont envoyer la voilure, ils vont barrer, ils vont prendre soin du navire, ils vont prendre soin de la flamme aussi, et puis on leur a réservé aussi plusieurs activités, histoire que ce voyage qui dure 12 jours soit une vraie épopée, une vraie aventure maritime, et puis avec la flamme en plus, je pense que pour eux, ça sera vraiment un moment clé dans leur vie.
Alors est-ce qu'il y a un petit challenge quand même, parce qu'évidemment, vous pouvez être contraint par la météo. Les 12 jours là pour arriver à Marseille, on est sûr que ce sera suffisant? Vous êtes certain d'être là le 8 mai à Marseille avec le BLM et la flamme?
C'est toujours un peu présomptueux de se dire en partant en mer que quoi qu'il arrive, il ne peut rien nous arriver. On a toujours, en tant que marin, l'idée que tout peut changer sur la mer. Pour l'instant, vu les éléments nautiques que j'ai vus, météo, etc., vitesse navire, il n'y aura pas de souci. De toute façon, nous, on a deux objectifs principaux. C'est d'arriver tous de l'autre côté en bonne santé. Mais ça, c'est notre travail quotidien. La sécurité à bord, c'est très important pour nous. Et puis, que le balade ne soit surtout pas en retard pour cette cérémonie fantastique du 8 mai à Marseille, pour cette arrivée qui sera en grande pompe, qui lancera vraiment le début du relais de la flamme. C'est l'arrivée de la flamme sur le pays France. Et puis aussi que la flamme ne s'éteigne pas. Donc c'est ces trois paramètres qui sont un petit peu à subir en tant que commandant. C'est vrai que c'est cette pression-là que j'ai. Ouais. Mais je ne doute pas que l'équipage et les éclaireurs feront leur job et que ça va très très bien se passer.
Et puis c'est sans doute à ce moment-là aussi que les Français vont prendre conscience que les JO, ça y est, c'est parti, on va enfin parler de la flamme, de sport, après avoir parlé beaucoup de sécurité, etc. Alors j'aimerais qu'on parle un peu du BLM, du bateau, commandant JB, c'est un bateau hors du temps, les Français l'aiment beaucoup, ce sera le plus beau rôle de sa très très longue carrière, vous pensez?
Je pense que oui, le BLM est un navire historique, 1896, 124 ans. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, ce navire, il a croisé l'histoire des hommes. Il a croisé sur près de 3 siècles, de 1896 à aujourd'hui. Il a vécu plein de choses. Il a survécu un incendie, l'éruption de la montagne Pelée. Il a vu 2 guerres mondiales. Il a même vu la pandémie. Témoin de notre histoire d'humanité, pour la première fois, le BLM va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et être acteur de l'histoire. Donc là, vraiment, on lui donne un rôle historique. Alors aussi pendant ces 12 jours aussi, on lui a donné un autre statut. C'est plus un monument historique français. Pendant 12 jours, on aura un navire olympique.
Et ce sera aussi, j'imagine, un très beau rôle pour vous, commandant JB. C'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de traversée, même si vous en avez fait beaucoup. Vous êtes sur le BLM depuis plusieurs années.
Oui, c'est ma 8e année de commandement sur BLM. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un métier incroyable, fait de beaucoup de rencontres, de richesses, d'expériences uniques. Mais je pense que c'est là, oui, je sais que j'arrive à un niveau d'exceptionnalité que je ne retrouverai pas dans mon métier plus tard sur Belém. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer mon navire et de rester après sur la mission de la Fondation Belém, qui est de pouvoir embarquer le maximum de personnes. On a cette chance d'avoir le Belém, le plus vieux voilier d'Europe qui navigue, ouvert à tous. Et on continue avec ferveur, avec envie de continuer cette mission. Donc je pense que oui, il y aura un atterrissage psychologique le 9 mai, une fois que nous, la flamme sera débarquée. Mais ça donnera aussi encore plus envie de pouvoir amener les stagiaires à faire nos navigations. Ils sont encore plus intéressés par nous. Donc nous, c'est vraiment une joie énorme. Mais pour l'instant, je ne réalise pas exactement ce qui nous arrive. On est très, très dans l'immédiateté de l'appareillage. Là, vous voyez, ça commence un petit peu à s'agiter. Et voilà. Donc pour l'instant, je me concentre sur ma mission. Je pense que je réaliserai après tout le chemin parcouru.
Et après, le 9 mai, eh bien vous n'allez pas vous arrêter là, puisque le Belém, il pourra être visité gratuitement. Il faudra réserver tout de même entre le 9 et le 12 mai. Et puis après, il sera visible à La Rochelle, à Brest, à Douarnenez pour les grandes fêtes maritimes à venir. Émeric Gibet, on vous souhaite bon vent, parce qu'il faut le bouger, ce Belém, pour qu'il soit là le 8 mai à Marseille. Et puis on vous souhaite à vous et à vos 16 éclaireurs et à tout l'équipage, une très belle traversée. Et rapportez-nous la flamme.
Très bien, je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis au 8 mai alors, à Marseille.
Rendez-vous à Marseille. Bon vent, Émeric.
Et pour écouter cette interview, n'hésitez pas à vous rendre sur le site europe1.fr ou en podcast sur notre application Europe 1. Bon réveil avec Lénaïque Monnier, il est 8h20.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h, Lénaïque Monnier.
L'heure du journal permanent, Victor Pourchet.
Le 8 mai sera le début de nos Jeux. Il faut qu'on montre le meilleur visage de la France. Les mots de Tony Estanguet alors que la flamme olympique doit quitter le port d'Athènes ce matin, direction Marseille. Le président du comité d'organisation des JO a annoncé aussi que Florent Manaudou, le nageur champion olympique, serait le premier porteur de flamme dans la cité phocéenne dans une dizaine de jours. 8 départements en vigilance orange pour des orages aujourd'hui, cela concerne le sud-ouest, plus précisément la Nouvelle-Aquitaine. Le pic est attendu dans l'après-midi. Un nouvel espoir de trêve à Gaza. Une proposition israélienne de trêve est sur la table du Hamas. Ce matin, le mouvement terroriste palestinien annonce être en train de l'étudier. Et puis, c'est peut-être le soir du titre pour le Paris Saint-Germain. En football, les Parisiens affrontent le Havre ce soir à 21h pour le compte de la 31e journée. En cas de victoire, ils seront champions de France de Ligue 1. Hier, Montpellier et Nantes n'ont pas su se départager. Score final partout.
Merci Victor Pourchet.
Europe 1,
6h, 9h,
Lénaïque Monnier.
Allez, avant de retrouver Alexis de la Fléchère pour le journal.
Aujourd'hui, les plateformes de formation en réalité virtuelle comme Resil aident les sportifs professionnels et amateurs à s'entraîner pendant qu'ils récupèrent après une blessure. S'entraîner dans le métavers permet aux sportifs blessés de continuer à travailler leur concentration et leur temps de réaction, pour pouvoir affiner leurs compétences et reprendre leur sport avec confiance. Meta et le métavers ont déjà un impact.
Un bateau peut-être.
Oui, bon, alors ça, en effet, mais quel type de bateau?
Avec une coque.
Ouais, bravo. Bon, une coque noire et des voiles ocre. Je pense que vous avez tous l'image en tête. Et ces synagogues donc font partie du patrimoine maritime du Golfe, parce que synagogue, en fait, c'est le nom qu'on donne aux habitants donc de Séné, village sur le Golfe. Et les premières traces écrites de son existence remontent à 1728. Bon, à l'époque, il n'y avait qu'une seule voile. Maintenant, il y en a deux. Et si vous roulez sur justement la nationale en arrivant dans le Golfe, eh ben le panneau qui vous accueille est à l'effigie d'un synagogue.
Alors, est-ce qu'il y en a toujours ?
Alors, il y en a toujours. Mmh. Ils sont préservés, restaurés par une association, les Amis du Synagogue. Alors, ils ont trois bateaux. L'un d'entre eux s'appelle les Trois Frères. Mmh. Ils ont mis 17 mois à le restaurer. Et il est classé comme un monument historique. Il y en a deux autres. Jolivent, qui peut accueillir jusqu'à 11 personnes, sans compter l'équipage. Le mob Air Gip, jusqu'à 8. Et alors donc, pour les apercevoir déjà, vous pouvez vous rendre à la semaine du golf, qui a lieu tous les deux ans, en alternance avec les voiles rouges. Les voiles rouges, c'est cette année, c'est le 25 et le 26 mai.
Alors, est-ce qu'on peut monter à bord ?
Eh bien oui. Ah. Alors attention, pour ça, il faut adhérer à l'association.
Oui, normal.
Parce que les entretenir, c'est un coût, 180 000 euros quand même, pour la restauration des Trois Frères. Mais... Donc, le pass, c'est qui adhère, embarque. Ça veut dire que...
C'est le deal.
Voilà, 40 euros l'adhésion. ça vaut le coup parce que c'est vraiment une manière authentique de découvrir le golf, évidemment le patrimoine maritime, l'histoire de ces bateaux, voir comment on navigue de manière traditionnelle. Et puis, bon, bah, quand il n'y a pas de vent, hein, c'est les avirons. Hein.
Et alors, on peut accoster sur les petites îles du golf, là.
Exactement. Il y en a deux. Il y a deux coups de cœur parce qu'on peut aller, évidemment, s'y baigner, on peut pique-niquer. L'île d'Ars avec la plage de Brouel, moi que j'aime beaucoup, et sur l'île aux Moines. Alors, ça, du côté océan, il y a la plage de Port-Miquel. Et puis, moi, je vous incite à rester dormir sur l'île aux Moines. Il y a des hôtels, il y a des Airbnb, le San Francisco.
Ah oui, j'aime beaucoup.
Vous aimez beaucoup? Alors, sûr. Voilà.
Et on a une fan d'Europe 1 Matin Week-end qui œuvre pour cette association. C'est son anniversaire aujourd'hui, ah. Donc on l'embrasse, elle se reconnaîtra. Et puis on va quitter le Morbihan pour se rapprocher un peu de chez moi, Olivier Pouls, Plougastel, capitale de la fraise. On mange des fraises ce matin avec deux recettes.
C'est vrai, alors les fraises, elles sont arrivées tôt, hein, comme chaque année, de plus en plus tôt d'ailleurs, j'ai l'impression.
Mais il ne fait pas très chaud quand même en ce moment, pour les déguster. Hein.
Là, ça y est, on commence à voir les premières gariguettes ou sifflorettes un peu plus sucrées que ce qu'elles étaient au début de la saison. Alors, petit rappel, on choisit des fraises françaises, évidemment, bien rouges, parfumées, pas trop grosses. On les lave avant de les équeuter, c'est très important, dans une eau légèrement vinaigrée. Et on ne met pas les fraises au frigo.
En plus, ça sent pas bon.
Règle d'or.
Alors, non, mais c'est vrai, ça donne des odeurs désagréables.
Deux petites recettes rapides, faciles, avec vos fraises. Alors, la première, c'est un tartare de fraises en trompe-l'œil qui ressemblerait à un tartare de viande, mais à part que vous allez servir au dessert. Ah, ouais. Alors, vous pourrez éventuellement faire croire à vos invités qu'il y a encore un petit morceau de viande en fin de repas, mais pas
du
tout.
Vous êtes drôle, vous, en fait.
Vous allez prendre 500 grammes de fraises bien rouges et bien mûres. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, mûre aussi, un peu d'estragon qui marche très bien avec la fraise, une petite cuillère à café de vinaigre balsamique et un peu de poivre. C'est très facile, on lave, on équeute les fraises, on en met quelques-unes de côté, les autres on les coupe en petits dés, comme un tartare, exactement. Alors celles qu'on a mises de côté, ben, on va les mixer avec l'huile d'olive, le vinaigre et une petite pointe de poivre aussi. On cisèle l'estragon, on mélange ce coulis de fraise avec nos dés de fraise et l'estragon. Et ensuite, on sert sur des assiettes. Et c'est assez bluffant.
Et alors, vous avez une autre recette, Olivier? Parce que c'est vrai qu'on a eu un peu chaud cette semaine.
Ouais,
on a
fait
une canicule.
Les températures montent. Alors, ce sera plutôt pour cet été, à mon avis. Plutôt une salade en entrée, là, pour le coup, qui associe la fraise, la feta et le concombre. C'est trois produits qui marchent très bien ensemble.
C'est une bonne idée.
Ouais. 300 grammes de fraises, un concombre, ou un avocat d'ailleurs, ça marche aussi. 150 grammes de dés de feta, quelques feuilles de basilic. Là aussi, c'est une herbe qui marche bien avec les fraises. Un peu d'huile d'olive, un jus de citron, une petite pincée de sel. Puis là, on fait une grosse salade avec tout ça, tout simplement en coupant les fraises en deux ou en quatre. On épluche et on fait dégorger le concombre quand même avant de le tailler en petits dés. Voilà, sinon c'est plein de flotte. On réalise la vinaigrette avec l'huile d'olive, le jus de citron, la pincée de sel, on émasse le basilic et on réunit le tout. On laisse reposer 30 petites minutes à température ambiante. Ça permet de bien imprégner et de dégorger un petit peu de jus qu'on pourra ensuite boire directement dans le fond de son assiette ou poliment avec une petite cuillère.
On fait ça à l'assiette, nous. Merci beaucoup à tous les deux. Europe1.fr pour retrouver cette chronique.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 8h26. Qu'avez-vous prévu pour la prochaine demi-heure, Lénaïque?
Si Alexis de la Fléchère est à l'heure, on aura un journal à 8h30. Et puis, bien entendu, on aura le plaisir de retrouver les incontournables de Julia Vignali avant 9h en compagnie ce matin d'Éric et Ramzy. À tout de suite.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous dès lundi de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée. Avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous lundi de 19h à 21h sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
On sort ce soir ? On pourrait aller au ciné ? Ou aller voir une expo ? Ou un concert ? Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là ?
Hein, pardon, tu disais ? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable !
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, hey, tu me le prêtes ?
Verisure, la protection adaptée à chacun.
Avec un enfant à la maison, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et accompagné.
Verisure vous offre une protection contre les intrusions et les accidents domestiques. Nos agents réagissent en quelques secondes et alertent les services d'urgence. Rendez-vous sur verisure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
Une série de crimes hors normes. Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Europe 1 Matin Week-end.
6h-9h.
Lénaïque Monnier.
Bienvenue sur Europe 1, il est 8h30, l'heure de retrouver un nouveau journal en compagnie d'Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Bercy craignait le pire, mais finalement les agences américaines de notation Moody's et Fitch maintiennent leur note sur la dette de la France malgré un déficit plus que dans le rouge. Le point sur ces résultats en début de journal.
À Sciences Po Paris, accord trouvé entre la direction et le comité étudiant pro-Palestine, accord vivement critiqué, vous l'entendrez, dans un instant par l'UNI, le syndicat classé à droite dénonce un manque de autorité de l'équipe dirigeante.
Enfin, le PSG sera-t-il sacré champion de France de football ce soir ? Verdict vers 21h. Il suffit d'une victoire pour les Parisiens face au Havre.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, l'édito d'Alexandre Devecchio et les incontournables de Julia Vignali. Qui est votre invité, Julia ?
Eh bien, aujourd'hui, deux grands noms de l'humour français, Éric et Ramzy. Ils reforment leur duo pour trouver la nouvelle pépite de l'humour.
Et c'est après le journal et votre tendance météo, Mickaël Poteau.
De la pluie, des orages, de la grêle aujourd'hui sur une bonne partie ouest et au nord du pays, alors que l'Est et la Méditerranée profiteront d'un temps lumineux, nuageux et venteux. Et ça va continuer la semaine prochaine.
Et météo complète après le journal.
Europe 1.
Et à la une, donc Alexis, Fitch et Moody's qui ne sanctionnent pas la France.
Oui, Bercy peut souffler après des semaines d'attente. Les deux agences de notation américaines ont décidé de maintenir la note de la France inchangée. La France toujours au troisième rang de ce barème, l'équivalent d'un 18 sur 20. Bonjour Margot Faudéré.
Bonjour.
Avec les dérapages de notre déficit public ces dernières semaines, on aurait pu craindre pire scénario.
Effectivement, on pouvait s'attendre à un verdict bien moins favorable du côté de Moody's. Rappelez-vous, il y a un mois, dans un communiqué, l'agence avait jugé improbable que la France tienne son objectif de réduire le déficit d'ici à 2027. Finalement, non seulement Moody's a maintenu la note de la France, mais elle l'a aussi assortie d'une perspective stable. Signe que la France inspire encore confiance, estime Olivier Redoulès, directeur des études chez Rexecode.
Cette note inchangée, c'est sans doute la résultante de plusieurs facteurs, c'est-à-dire qu'on a des conditions de marché qui sont restées bonnes, le fait que le gouvernement a su convaincre de sa stratégie, le fait que l'agence de notation regarde la situation de la France par rapport à d'autres pays, et pour l'instant, il lui a pas paru nécessaire de se prononcer dans un sens comme dans l'autre.
Mais si le gouvernement a su convaincre, les finances publiques françaises ne s'améliorent pas pour autant, c'est le moins qu'on puisse dire. La dette publique a augmenté de 13 points depuis 2019, le déficit a dérapé à 5,5% du PIB l'année dernière, contre les 4,9% initialement prévus. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, souhaite donc redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques. Une note inchangée cette fois-ci ne veut pas dire qu'elle le sera la prochaine fois.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Notre sondage du jour à présent, faut-il, oui ou non, légaliser la gestation pour autrui en France ? Vous répondez oui à 59% selon l'étude CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche ce matin. Résultat encore plus marqué à gauche, jusqu'à 60%. 71% des écologistes y sont favorables.
Direction Sciences Po Paris à présent, Alexis. Retour au calme ce matin, rue Saint-Guillaume.
Pas seulement parce que c'est le week-end, surtout parce que les militants pro-palestiniens qui ont occupé l'établissement sont partis grâce à un accord avec la direction. Pas de sanctions contre les bloqueurs et des concertations à venir sur le boycott des partenariats avec des établissements israéliens. Décision très contestée, selon Yvan Lecoz, délégué national de l'UNI, un syndicat étudiant classé à droite. La direction s'est littéralement couchée devant les manifestants.
Malgré des propos antisémites qui ont été tenus, malgré des propos ouvertement pro-Hamas, quand il y a des chants comme « Vive la résistance palestinienne » ou en anglais « From the river to the sea » donc qui explique qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'État d'Israël, c'est clairement de l'antisémitisme. Et malgré ça, il n'y aura aucune poursuite pour ces militants pro-palestiniens. Donc moi j'appelle ça se coucher, et plus que se coucher, je dirais même que c'est se complaire. Ce qu'il fallait, c'est demander l'intervention des forces de l'ordre et n'avoir absolument aucune once, je dirais, de laxisme ou de lâcheté comme c'est le cas actuellement. Et expliquer à ces militants-là que de toute façon, s'ils veulent continuer à bloquer illégalement ou à occuper illégalement Sciences Po, ils seront renvoyés de l'établissement.
Yvan Lecoz, délégué national de l'UNI au micro de Martin Lange pour Europe 1. A souligner aussi ce matin, le Hamas annonce étudier une proposition israélienne de trêve. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, quant à lui, réaffirme dans les colonnes du Figaro que la France ouvrira pour une solution à deux États.
8h35 sur Europe 1, et ça y est, on peut le dire, hein, la flamme olympique est française.
Oui, la Grèce l'a officiellement remise hier à Athènes au patron du comité d'organisation des Jeux de Paris, Tony Estanguet. Et cette flamme, elle va embarquer ce samedi matin, 10h, heure française, sur le mythique voilier Le Belém, direction Marseille, arrivée prévue le 8 mai. C'est Florent Manaudou qui la récupérera sur le Vieux-Port. Le nageur quadruple champion olympique est le premier relayeur de cette flamme olympique sur le sol français.
Dans l'actualité également, Alexis, le gouvernement qui a rendu public aujourd'hui des mesures complémentaires en faveur des agriculteurs.
Oui, on l'a appris tout à l'heure, dans l'espoir évidemment de clore pour de bon la crise qui a provoqué des blocages exceptionnels au début de l'année et qui continue de couver chez les paysans. Parmi ces mesures figure la présentation promise début mai de la version définitive du nouveau plan éco-phyto de réduction des pesticides, de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations, l'accélération aussi de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation.
On conclut votre journal avec les terrains de football en Ligue 1.
Oui, pas de vainqueur hier entre Nantes et Montpellier, score 1 partout. Premier match du week-end pour la 31e journée de Ligue 1 de football. La suite, ce samedi, Paris reçoit le Havre. Le PSG possède 11 points d'avance sur son dauphin Monaco, si bien qu'en cas de victoire ce soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé seront Cyril de la Morinerie sacré champion, un titre qu'ils auraient d'ailleurs déjà pu conquérir la semaine dernière.
Oui, mercredi dernier, le PSG de retour de Lorient aurait pu être sacré dans l'avion, mais Monaco a finalement gagné. Ce soir, la donne sera totalement différente. Les Parisiens pourront être sacrés au Parc des Princes devant leurs supporters. Et cela réjouit l'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
On espère que ce sera un jour spécial. C'est le scénario parfait pour célébrer ce titre avec nos supporters.
Et les coéquipiers de Kylian Mbappé méritent ce titre. Ils survolent la Ligue 1. Les Parisiens possèdent la meilleure attaque du championnat. Ils proposent un jeu de plus en plus séduisant. Pour Laurent Blanc, ancien entraîneur du PSG, ce sacre est naturel.
Il ne faut pas banaliser le championnat de France, surtout pas. Ils ont été programmés pour gagner le championnat. Ils ont été programmés pour gagner la Coupe. Nous, on le sait aussi parce qu'on l'a fait. Mais il y a toujours ce palier de Champions League qui est difficile à atteindre. Et donc, là, ils en ont la possibilité, qu'ils s'en privent surtout pas.
Paris devrait en profiter pour faire tourner ce soir, car la priorité reste en effet la Coupe d'Europe. Les joueurs de Luis Enrique joueront à Dortmund mercredi prochain en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Cyril de la Morinerie.
Et c'était le journal d'Alexis de la Fléchère. Merci beaucoup, Alexis. Michaël Poteau, vous nous dites à 8h37 sur Europe 1 qu'alors le temps n'est pas terrible aujourd'hui, ouais, mais que dans les prochains jours, ça ne va pas forcément s'arranger.
Non, c'est vraiment pas folichon pour terminer avril. Alors demain, le temps semble s'inverser par rapport à aujourd'hui, avec un temps plus calme, avec averses et éclaircies à l'ouest de cette limite Roussillon-Alsace. En revanche, sous cette limite, vallée du Rhône, Bourgogne, Côte d'Azur, on attend beaucoup de pluie. Lundi, on nous annonce un axe pluvieux des Pyrénées aux Vosges avec une activité pluvieuse plus intense sur le Roussillon. Ça tombe bien, on a besoin d'eau jusqu'au Cantal. Ailleurs, plus on s'approchera des côtes normandes, plus le temps se dégagera. Notez que lundi, seule l'île de Beauté bénéficiera d'un très très beau soleil. Et pour la suite, mardi, une pluie plus intense du Roussillon à l'île de France. Et mercredi, beaucoup de nuages avec des averses possiblement orageuses de la Normandie à la Côte d'Azur. Et côté températures, elles vont grimper de plus en plus, 8 à 10 degrés jusqu'à lundi le matin, puis 10-15 degrés, et ensuite pour l'après-midi, 15 degrés en moyenne. En début de semaine, 20 degrés l'après-midi, le mercredi.
Merci Mickaël. nous accueillons comme télé week-end Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lénaïc, bonjour à tous.
Pour votre édito, alors on va parler sondage ce matin. Une étude IFOP fiduciale pour votre Figaro Magazine confirme à 3 ans du scrutin présidentiel la domination de Marine Le Pen, la figure de proue du RN, qui est donnée en tête du premier tour en 2027. Victorieuse au second, quel que soit le scénario ou le candidat face à elle, est-ce qu'elle a déjà gagné?
RN, l'inéluctable victoire, c'est la question que pose Arnaud Benedetti dans son nouvel ouvrage paru ce mercredi. À 3 ans de l'élection présidentielle, il serait toutefois très imprudent de répondre par l'affirmative, et d'ailleurs le politologue s'en garde bien. Tous les sondeurs vous le diront, un sondage, surtout lorsqu'il est si éloigné de l'échéance, n'est qu'une photographie du paysage politique du moment. Souvenons-nous que seulement quelques mois avant l'élection de 2017, François Fillon semblait encore imbattable. Puis la justice est passée par là. Le procès cet automne des emplois fictifs au Parlement européen est une épée de Damoclès judiciaire suspendue au-dessus de la tête de Marine Le Pen. Une condamnation en inéligibilité n'est pas à exclure. Une dissolution de l'Assemblée nationale pourrait également totalement rebattre les cartes politiques avant la présidentielle. Enfin, l'expérience montre que le favori à 3 ans de l'échéance gagne rarement, si ce n'est jamais. Pour autant, il serait stupide de nier qu'il se passe quelque chose d'inédit.
Alors de quoi parle-t-on ?
De l'élargissement spectaculaire de la base électorale du Rassemblement National. Dans une tribune publiée dans le Figaro il y a quelques mois, Jérôme Sainte-Marie expliquait que la victoire du RN était possible à condition de rallier la majorité des classes moyennes et une fraction des élites. Sondeur proche de Marine Le Pen et auteur d'un célèbre essai intitulé « Bloc contre bloc », Sainte-Marie a été l'un des premier à montrer que la percée de Marine Le Pen reposait sur le soutien d'un bloc électoral populaire très cohérent. Néanmoins, le sondeur estimait que ce bloc ne suffisait pas à lui seul pour que le RN l'emporte. Pour espérer atteindre le score de 50%, Marine Le Pen devait encore convaincre d'autres catégories, à commencer par les classes moyennes, analysait Sainte-Marie. Si l'on en croit les derniers sondages, ce basculement est en train de s'opérer, puisque le RN ne séduit plus seulement les ouvriers et les employés, mais aussi désormais une partie des cadres et des retraités, sans doute malheureusement parce que le déclin de la France se généralise.
Mais alors Alexandre, reste à convaincre une fraction des élites tout de même.
Oui, et précisons que par élite, Jérôme Sainte-Marie entend des personnalités reconnues du monde politique, médiatique, administratif ou économique, susceptibles de renforcer la crédibilité du RN. S'il est trop tôt pour parler de ralliement d'une partie de ces personnalités, on constate que désormais, tout le monde intègre et même accepte l'hypothèse de la victoire de Marine Le Pen. Il y a encore quelques années, un sondage comme celui-ci aurait déclenché un séisme. Aujourd'hui, il est accueilli avec un haussement d'épaules. Toujours dans les colonnes du Figaro, il y a quelques mois, Alain Minc faisait cet aveu. « Je suis estomaqué par la résignation des milieux dirigeants face à la possible élection de Marine Le Pen. » Et le défenseur du cercle de la raison de redouter que cette résignation se transforme peu à peu en adhésion passive.
Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Merci Alexandre,
merci.
À demain. Vous restez bien sur Europe 1, il est quasiment 9h-20, ça veut dire que Julia Vignali ne va pas tarder à entrer dans ce studio en compagnie d'Éric et Ramzy. Et juste avant, nous entendrons les meilleurs moments de Gaspard Proust. À tout de suite.
Bonjour, c'est Laurent Mariotte.
Europe 1, la table des bons vivants.
Une vague de froid a traversé le pays. Quel impact sur les futures récoltes et les vignes? On en parle avec nos agriculteurs. La chef Stéphanie Lequellec nous rejoint pour le plat du jour. Ancienne candidate et aujourd'hui jurée de l'émission Top Chef, nous profitons de sa présence pour passer les concours de cuisine à la casserole. Des petits pois, du tarama, de jolis vins, il ne manque plus que vous.
La table des bons vivants.
Rendez-vous tout à l'heure de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Carrefour.
Quand vous me dites « Le week-end, faut se faire plaisir !»
Je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est la bavette de bœuf 3 étoiles à griller, garantie prix le plus bas, à 13,99€ le kilo seulement. Alors,
c'est parfait.
Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Allemagne, Royaume-Uni ou Pays-Bas. Caissette de 800 grammes environ, détails sur carrefour.fr.
On sort ce soir? On pourrait aller au ciné. Ou aller voir une expo. Ou un concert. Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là?
Hein, pardon, tu disais? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers.
C'est incroyable.
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, hey, tu me le prêtes ?
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1 Matin Weekend.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
Il est quasiment 9h moins le quart sur Europe 1. Il est l'heure de retrouver les meilleurs moments de la semaine de Gaspard Proust, notamment celui-ci.
Europe 1, Gaspard Proust, le meilleur.
J'aimerais commencer ce matin avec une pensée amicale pour Kenji. C'est pas ironique du tout.
Oui, je voyais pas dans cette forme d'empathie un peu sérieuse, Gaspard. Vous me surprenez là.
Je peux être quelqu'un de très surprenant. Franchement, oui. Je pense que dans une autre vie, j'aurais pu être l'inventeur de Kinder Surprise. Mais je sais bien qu'on m'imagine pas spécialement en train d'écouter du Kenji. Mais bon, le gars, tu sais, fait partie de ce type de personnes que même quand tu connais pas, spontanément, t'aimes bien. Tu vois,
c'est vrai.
Cette bonhomie immédiate, un peu comme moi, quoi. C'est un rayon de soleil, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi c'est drôle ?
Non,
c'est
pas marrant
du tout. Tout pareil, voilà. Ne serais-je pas une sorte de Kenji de la blague du petit déjeuner ?
Oui, c'est un peu fort de café comme comparaison, mais pourquoi pas ?
Ne soyez pas désagréable. Non, vraiment, j'ai entendu la nouvelle. J'espère qu'il va récupérer. Parce que tu vois, j'aurais appris, tu vois, que Jules venait de se perdre son gros orteil en claquant la porte de sa Lamborghini sur les tongs. Il y avait moyen que j'aille quand même m'acheter direct un demi-kilo de caviar chez Caspia pour fêter ça.
Vous pensez que c'est un risque court, Jules, là, de se prendre une porte de Lamborghini sur les orteils, là ?
Ah bah, c'est un gars de Marseille, comme disait le papé à Hugolin dans Manon des Sources, épisode 10, Hugolin contre-attaque. Gaillinette, les claquettes et les porte-papillons de la Lambo, c'est comme la poudre et le vin, ça fait rarement bon ménage.
Bon, on souhaite un bon rétablissement,
oui,
à Kenji.
On lui souhaite.
Bon, alors, dans l'actualité immédiate, vous avez vu que hier, Gabriel Attal est monté au front.
Ouais, Gabi a encore parlé. Qu'est-ce qu'il est fort, le Gab.
Vous trouvez, vraiment ?
Il a cette phrase magique, écoutons donc.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Après les rafarinades du type la route est droite, mais la pente est forte, c'est les gabinades. La poubelle est renversée, mais Kevin et Mathéo la passent à la Javel. C'est cette phrase, tu vois, tu casses, tu répares, ça sent surtout que Gabi nous a caché son passé.
Ah oui, c'est-à-dire ?
Avant de faire la politique, il a été poseur de pare-brise chez Carglass, c'est évident. Un bris dans le pare-brise, faut pas laisser traîner ça, Gabi répare, Gabi remplace. Oui.
Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
Et chez nous, dans Europe 1 Matin Week-end, on est content de l'accueillir également à 9h moins le quart tous les samedis et tous les dimanches. Et puis Gaspard, que vous retrouvez également sur Europe 1.fr.
Europe 1 Matin Week-end.
Et pour terminer Europe 1 Matin Week-end, il est temps de retrouver Julia Vignali avec ses incontournables. Et il faut dire qu'après vos vacances, Lénaïque, vous êtes quand même contente de vous retrouver toutes les deux.
Bah oui, on est contente de se retrouver. C'était bien les vacances, Julia ?
Ah, c'était bien. C'était trop long. Vous m'avez manqué.
Vous avez manqué à toute l'équipe aussi. D'ailleurs, vous vous rattrapez avec deux invités aujourd'hui.
Exactement. Un duo qui nous a fait beaucoup rire depuis les années 90. Eric Judor et Ramzy Bedia. Ah bah oui. Et cette fois, ils sont en quête de l'humoriste de demain grâce à un concours inédit, une sorte de télécrochet intitulé Comedy Class, qui est disponible depuis hier sur Prime Video. Alors, j'ai eu la chance de les rencontrer. Nous avions rendez-vous à la Tour Montparnasse.
Ah bah oui.
Alors forcément, une référence évidente à l'un de leurs plus gros succès. J'ai donc vaincu mon vertige. Je suis montée au 56e étage pour les retrouver. Et je vous propose de les écouter.
Allez, c'est parti.
Bonjour Eric Judor.
Bonjour Julia.
Bonjour Ramzy Bedia.
Bonjour Julia Vignali.
On vous retrouve ensemble à l'affiche de Comedy Class depuis quelques jours sur la plateforme Prime Video. C'est un nouveau concept de 9 épisodes durant lesquels vous partez à la recherche de la prochaine pépite de l'humour. Alors, vous dites même que vous êtes plus exactement à la recherche de l'humoriste qui va vous enterrer. Vous êtes vraiment sûr de vouloir trouver cette personne ?
Je pense qu'on était déjà enterré un peu avant.
On était mort. C'était le cadavre traînait.
Ouais. Et du coup, là, il faut remettre du sable et un peu de terre.
Oui.
Donc là, c'est pas quelqu'un qui va nous enterrer. Il y a des gens qui nous ont déjà enterrés depuis.
Ouais.
Mais là c'est
entretenir la tombe.
Ouais, rajouter des fleurs. Voilà. entretenir, mais mettre un mort. Spray odorant.
Ah oui. Oh, oui, c'est mort depuis longtemps.
Tout au long de ces 9 épisodes, vous serez accompagné d'invités prestigieux comme Florence Foresti, Jean-Pascal Zadi, Marina Foïs, qui vont donner des conseils aux jeunes humoristes et les mettre à l'épreuve. Alors les plus méritants auront la chance d'intégrer la prestigieuse Comédie Classe et un seul d'entre eux repartira avec 50 000 euros.
C'est pas mal, hein.
Ouais. C'est pas mal.
Il fallait un petit peu quand même rajouter une carotte pour que les gens vraiment, pour mettre une tension. Et ces 50 000 balles ont vraiment, plus on arrivait vers la fin, et plus on sentait qu'il y avait 50 000 balles à prendre.
Oui, au début, clairement, pour eux, c'était un leurre, c'était quelque chose qui...
On s'en fout, on n'est pas là pour l'argent.
Et quand il en restait 4, la chose, c'était vraiment, quand on voyait la fin. On voyait
la compétition. Fin,
ceux qui ont perdu, on a vraiment vu le...
Des pleurs d'argent. On a eu des pas pleurs. Des pleurs d'émotion, mais des pleurs d'argent.
Mais c'est vous qui avez eu l'idée de ce concept ou pas, Comédie Classe?
C'est ITV, c'est une boîte de production.
Voice, notamment.
Qui a décidé de faire appel à nous. Et ensuite, ils ont appelé eux-mêmes Amazon. Et le truc, nous, on leur a dit un petit oui de principe. Ça nous est marré de nous retrouver avec Ramzy. Et 2 mois plus tard, ils nous donnaient des dates de tournage. Donc, ça nous a un peu bousculé. On s'est senti un peu obligé de le faire.
On voulait pas vraiment le faire.
C'est vrai?
Ouais, on a dit oui comme ça. On
pensait que ça allait être dans longtemps.
Dans longtemps.
Et c'est 2 mois et demi plus tard qu'on tournait, quoi. Une fois qu'on avait dit ouais, pourquoi pas.
Et vous avez participé au casting? Est-ce que vous avez vous-même sélectionné les candidats?
On arrive à la fin, quand tout est fait, et on dit oui ou non. Ouais. C'est vraiment très, très agréable.
Très reposant.
Alors, je crois que vous me mentez, parce que moi j'ai lu qu'en fait c'était pas du tout reposant, que ça vous plaisait pas du tout de dire non.
J'allais y venir, chère madame.
C'est pas
Vignali.
Fatigant, c'est gênant en fait, de devoir dire non à quelqu'un qui vient de poser ses tripes sur scène, devant du public, et qui vient de se prendre des silences. Et puis nous, des sourires et pas des vrais rires. Les gens sont archi conscients de faire des bides au moment où ils le font. Et on est très bien placés pour le savoir, puisqu'on en a vécu plein, des bides. Et du coup, derrière, leur dire non, c'est une sentence qui est très dure à...
Il y a un bon moyen de le faire ou pas, de dire non?
On ne l'a pas trouvé encore.
Ouais,
on
a pour tenté, la saison 2, ouais.
On a tenté plein de moyens de dire non. D'abord, une fois, on leur
vous
disait sur le moment...
quelqu'un d'autre, que ce soit un assistant qui a
été... Après, on allait les voir à la fin. On n'a pas trouvé le bon sûr. Moyen.
Oui, c'est vrai qu'au début, on leur a dit, bon, on ne décide pas tout de suite, allez dans la loge, on verra plus tard. Après. Et après, on n'osait pas aller dans la loge pour leur dire
non. Et il faut qu'on règle ça pour la saison 2.
Il faut trouver une manière...
délicate.
Mais c'est impossible, en fait. Un non, c'est un non.
Moi, quand je regarde les autres émissions avec des jurys, je me dis peut-être que eux ont la solution. Et quand je vois, je fais, ça, on ne peut pas faire ça, ce qu'ils font, nous.
Ils sont trop directs. Hein.
Ouais, trop.
Ouais. Ou vous passez par d'autres chemins, un peu plus... Ouais,
on leur dit surtout tout le temps qu'ils sont, quoi qu'il arrive, ils sont bons. Parce qu'ils ont eu le courage de venir, quand même. Et
vous l'auriez eu, vous, le courage de venir,
oui.
À l'époque?
Oui, mais on n'aurait pas
après,
eu
la qualité de ce qu'on aurait fait.
Ouais, non, c'était pas terrible ce qu'on faisait au début.
Mais pourquoi? J'ai entendu dire que vous trouviez que ce casting était vraiment supérieurement drôle à ce que vous auriez pu faire au même âge.
À cette même époque-là, dans notre carrière, au bout de 2 ans, certains, ça faisait qu'un an qu'ils étaient sur scène. Je trouve qu'ils ont une expérience, alors sans doute grâce au réseau, YouTube, tout ça. Donc ils ont vu plein d'exemples et ils ont une culture peut-être comique plus large que nous à l'époque, quoi.
J'ai l'impression que quand on est arrivé, nous, il n'y avait que 5 comiques. Il y avait Bedos, Palmade, Robin. Et ça nous paraissait incroyable d'essayer de faire ce métier-là. Alors qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est quand même plus... Il y en a de partout, des comiques.
Il y a
plein d'exemples, je trouve.
C'est que c'est moins risqué de se planter dans un truc... Puisqu'on a plein de chances, plein d'autres opportunités en fait de réussir. C'est-à-dire, on peut poster un sketch sur Instagram et ça cartonne le lendemain, quoi. Même si on n'est pas retenu sur. Alors que nous, à notre époque, on se plantait chez Drucker.
C'était fini.
C'était terminé, quoi.
Est-ce que vous diriez que l'humour a changé par rapport à votre époque? Est-ce que parmi tous les humoristes que vous avez vus passer sur Comédie Classe, il y a des blagues que vous ne feriez plus en 2024? Est-ce qu'il y a de l'humour interdit de nos jours? Est-ce qu'il y a des trucs qui passent plus?
Qu'on croyait un petit peu, et puis finalement...
Régulièrement quand même des gens qui se font cancel. Donc oui, il y a certainement des choses qui passent pas.
Et il y en a pour qui ça passe.
Mais il y en a pour quand c'est dit d'une manière géniale.
Je crois que c'est le talent, en fait, la différence.
Ouais, c'est pas tellement le propos, c'est le talent.
Est-ce qu'il y a un candidat en particulier, sans dévoiler évidemment ce qui se passe dans Comédie Classe, qui vous a particulièrement bluffé ou peut-être particulièrement ému?
Ouais, l'émotion, on s'en fout à ce moment-là. Ouais.
Pour la rigolade.
Mais il y a une personne qui nous a...
Il y a celui qu'on a fait gagner, qui nous a mis une baffe sur le moment, vraiment. Il y a celui ou celle qu'on a fait gagner. Et puis, il y a un deuxième candidate, qui a mis une baffe à tout le monde aussi. On en a 2-3 qui sortent du lot. Mais on est obligé d'en faire gagner un seul.
Mais
Est-ce que vous pensez les retrouver, ces candidats, justement, faire quelque chose avec eux? Parce que là, on est au sommet, il faut le préciser à nos auditeurs, de la Tour Montparnasse pour cette interview. Ça vous rappelle forcément des souvenirs. C'était en 2001, votre duo était à l'affiche de la Tour Montparnasse infernale. Est-ce qu'on peut imaginer vous retrouver un jour, déjà tous les deux au cinéma, et peut-être avec ces talents que vous avez découverts en particulier?
Je pense qu'ils s'en foutent un peu de nous, moi.
Qui?
Les talents qu'on a découverts.
J'ai pas reçu un message de dis donc, tu pourrais faire. Enfin, ils s'en foutent.
Ouais, je pense qu'ils vivent leur vie et ils ont bien raison.
Mais non, on est des mentors, on est des vieux.
Ouais, pour
moi, on est des positions de vieux, là.
On est des boomers un peu, donc je pense qu'eux, ils ont envie de faire des trucs avec les gens de leur âge. Tu vois, nous, à l'époque, si on avait demandé à Darmon, rappelle-toi, de jouer le méchant de la Tour Montparnasse.
Ouais, c'est vrai. Il avait dit non.
Oui.
Ou il pouvait pas.
Non, il avait dit non. Il t'avait dit non.
Mais vous pensez que l'humour, c'est une question d'âge? Il y a de l'humour de vieux et vous faites...
Non, mais je pense que quand on est jeune, on a envie d'émulation et de baigner dans le même bain, la même énergie, j'ai l'impression, quoi. Et puis, surtout si on vient dans un de leurs projets, on risque de vampiriser un peu le truc, quoi. Ils sont au début de quelque chose. Il faut qu'ils prennent le bâton de parole tout seul, quoi.
Merci à tous les deux pour cet entretien avec les incontournables
d'Europe 1. Merci Julia d'être venue jusqu'à la Tour Montparnasse.
Hey, Julia, ça va, Julia?
Je suis ravie d'avoir été avec vous. Je rappelle quand même à nos auditeurs que Comedy Class est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Prime Video. L'occasion de vous revoir en duo dans un exercice nouveau pour vous, celui de jurer à la recherche de la nouvelle pépite de l'humour. Et inutile de vous dire qu'on passe un très bon moment. Merci à vous.
Eh ben merci beaucoup, Julia, pour ce double entretien. On les sent toujours très complices, les deux, Coco.
Ils sont drôles, ouais. On les adore. Et je vous le confirme, ils sont hyper complices. J'ai passé un très bon moment avec eux, mais aussi en regardant cette série sur Prime Video. Vous savez, les Naïcs, on a un énorme vivier d'humoristes très talentueux en France. Et ça, c'est vraiment réjouissant.
Eh ben, on se retrouve demain, Julia.
Avec plaisir, à demain.
À demain, Julia. Une interview que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur notre site europe1.fr. Et Julia, demain, vous serez de nouveau en très bonne compagnie avec l'acteur américain Viggo Mortensen pour son nouveau film qui sortira mercredi. Et tiens, à propos de films hollywoodiens, on peut être fier de compter parmi les grands spécialistes des effets spéciaux un Français, Guillaume Rocheron, deux fois oscarisé quand même, notamment pour le film de Sam Mendes, 1917. Guillaume Rocheron, qui sera l'invité d'Isabelle Morizet tout à l'heure entre 13h et 14h dans Il n'y a qu'une vie dans la vie pour nous dévoiler toutes les facettes de son invité. Dans un instant sur Europe 1, le journal de 9h, les Naïcs.
Et avec Frédéric Tabéric, on va retrouver également d'ici quelques instants, puisque c'est bientôt la fin d'Europe 1 Matin Week-end. Et l'heure donc de vous retrouver, Frédéric Tadéhi. Bonjour Frédéric, quel est le programme du jour?
Bonjour les Naïcs. Eh bien, on va parler de la liberté d'expression qui est de plus en plus remise en cause dans notre pays. Avec Monique Cantos-Perber, je reçois également Sophie Sacknin pour son livre Merci Elisabeth Badinter et Gérard Moncet pour son nouvel album L'Algue Bleue.
Ben voilà.
Et ben voilà, merci beaucoup Frédéric. On vous retrouve juste après le journal de 9h qui arrive d'ici quelques instants, bien entendu sur Europe 1. Vous savez quoi? On a très envie de réentendre Émeric Gibé, le pacha, le commandant du BLM. Ils prennent la mer dans une heure à présent pour rapporter la flamme. Elle est partie d'Olympie pour arriver à Athènes, au Pirée, et désormais on l'attend à Marseille le 8 mai. Et bien, il était l'invité d'Europe 1 Matin Week-end. On réécoutera un petit extrait dans le journal de 9h qui arrive d'ici quelques instants.
Ben oui.
Quelques messages peut-être, Michael Poteau, de aux amis qui nous écoutent.
Oui, on salue Flavienne qui a apprécié Joe le Taxi ce matin, puisqu'on en a parlé évidemment aujourd'hui. Et puis on salue Thierry également qui nous laisse beaucoup de messages, en tout cas sur le Facebook de l'émission. Ça fait plaisir de vous voir et de sentir votre soutien et votre fidélité.
Et on sait que vous le serez également fidèle au journal de 9h qui arrive d'ici quelques instants. Bienvenue sur Europe 1, bon réveil pour ceux qui nous rejoignent.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Tout est bon ?
Tout est bon dans le jambon de Paris décoiné et dégraissé de chez Lidl, patron. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, il y a moins 50% sur le deuxième paquet de 6 tranches, soit 1,30€.
3,91€ les deux ! Ils nous prennent pour des jambons ?
Ah, c'est un vrai prix tranché, patron. On est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 10,88€ le kilo pour un produit, 8,15€ le kilo pour deux produits. Offre valable jusqu'au dimanche 28 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Enfin, au livre de poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Raven. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Raven, au livre de poche.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer. En ce 27 avril, il est 9h.
Europe 1,
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
9h lors d'un nouveau journal sur Europe 1 présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Lénaïque et bonjour à tous. Ramener la flamme à la maison. La torche olympique s'apprête à prendre la mer. Départ du port d'Athènes à 10h. Arrivée le 8 mai prochain à Marseille à bord du Bel Aim. Un formidable 3 mois dont Aymeric Gibet est le commandant. Il était l'invité d'Europe 1 Matin Week-end et il était en plein dernier préparatif.
On a de quoi s'occuper, donc c'est vrai qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire. Un appareillage d'un navire, il y a toujours mille et une petites choses à faire, on ne peut pas décoller comme ça.